Bonjour, je m'appelle Marielle et j'ai le plaisir de vous accueillir sur Compresse et Sparadrap, le podcast qui donne la parole aux soignants. Ici, on parle de vocation, d'expérience, de déception, de choix de carrière, mais aussi de remise en question et de moments de bonheur. L'idée, vous faire découvrir ces métiers de l'ombre, l'envers du décor du milieu hospitalier, par le biais de partage d'expériences et d'interviews sans tabou. Aujourd'hui, je donne la parole à Noémie. Elle exerce la profession d'orthophoniste en cabinet libéral, mais aussi auprès de personnes âgées en EHPAD. Bonne écoute! Bonjour Noémie.
Bonjour Marielle.
Comment tu vas?
Parfait.
Alors, est-ce que tu m'accueilles dans ton cabinet?
Oui, tout à fait.
Ouais, j'ai l'impression de ce que je vois. Alors, voilà, je l'explique pas toujours, mais on enregistre à distance et puis j'ai la chance de voir Noémie devant
voilà,
moi.
J'ai la chance de te voir.
Voilà.
Toujours plus agréable.
Je suis pas dans un éclairage des plus flatteurs, mais bon, peu importe. Au moins, on se voit quand on discute. Donc, merci de m'accueillir ce matin dans ton cabinet, de prendre du temps pour podcast.
À toi. C'est ce super podcast que j'ai du coup découvert et que je prends vraiment plaisir à écouter.
C'est adorable, merci
super
beaucoup.
Super chouette.
Écoute, tu es la première orthophoniste à venir à mon micro. C'est un métier que je souhaitais faire découvrir depuis longtemps.
Ouais.
Et moi, c'est un métier que j'ai failli exercer.
Ah oui?
Ouais, genre, je crois pas que j'en avoir déjà beaucoup parlé, mais c'était vraiment voilà ma vocation numéro un. J'ai même fait la prépa au concours, mais alors on va en parler. Ouais, j'avais fait la prépa. Et puis pendant la prépa, bon, j'ai découvert le métier d'infirmière, c'est un peu compliqué, et j'avais quand même obtenu le concours pour l'école d'orthophoniste de Nice, et puis voilà, ça s'est pas fait.
D'accord.
Je suis partie en école d'infirmière, mais voilà, donc tout ça pour dire que je suis vraiment, en plus, très contente moi personnellement de te recevoir parce que c'est un métier que j'aime beaucoup, qui je pense m'aurait plu aussi, donc je suis ravie de
métier,
de t'accueillir. Écoute, je te laisse te présenter, Noémie.
Oui, donc Noémie, orthophoniste. Autour de Montpellier. Je suis orthophoniste en libéral, donc j'interviens donc au cabinet, les patients viennent me voir au cabinet, j'interviens aussi en EHPAD, deux matinées par semaine. Je suis la maman de deux chouettes petites filles, de 4 ans et demi et de 19 mois.
Oh, dis donc.
Voilà. Et puis, écoute, j'essaye de lier tous les domaines, le pro, le perso, et voilà, tout ça au milieu.
Des casquettes.
Voilà, exactement. C'est ça.
Alors, comment est-ce que tu as découvert le métier d'orthophonie, justement?
Alors, j'ai essayé de repenser, justement, au tout début.
Oui, elle n'est pas facile, cette question.
Oui, c'est pas facile. Mais en fait, ma grand-mère paternelle était sourde. Voilà, elle a eu des convulsions à la naissance, elle est devenue sourde et je crois que en fait ça m'a toujours un peu interrogée, cette surdité. Quand j'étais petite, elle a jamais voulu développer un autre langage, hein. Elle a jamais voulu apprendre la langue des signes, par exemple. Voilà, je sais pas, j'ai pas le fin mot de l'histoire, je sais pas vraiment pourquoi, mais en tout cas elle n'a jamais voulu apprendre, et donc la communication avec elle a toujours été un peu compliquée. Et je pense que je me suis un peu renseignée, voilà, sur les personnes sourdes, comment est-ce qu'elles pouvaient communiquer autrement, etc. Et puis j'en suis venue à découvrir, si tu veux, le métier d'orthophoniste, un peu comme ça.
Ah, oh, c'est super comme histoire.
Voilà, donc oui.
Et voilà. Comment elle faisait? Elle lisait sur les lèvres?
Elle lisait sur les lèvres, tout à fait, oui. Wow. Et puis alors, elle se faisait comprendre avec beaucoup de non-verbal, elle était très expressive. Voilà, elle parlait beaucoup avec les mains, le visage, et puis elle avait des petits sons qui sortaient, tu vois, et qui permettaient, tout ça permettait qu'on arrive grosso modo à se comprendre, mais c'était quand même pas simple.
J'imagine, ouais.
Voilà, donc j'en suis arrivée un peu comme ça. Dans mes souvenirs, en tout cas, c'est ça. Et puis après, au collège, tu commences à réfléchir un petit peu plus précisément, on te parle des différentes études, au lycée, pareil, bon, voilà, j'en suis arrivée là, comme ça.
Ah, d'accord. Alors, une filière générale au lycée, ou elle a un bac technologique?
Voilà, alors une filière générale,
okay.
Et puis ensuite, une prépa.
Ok.
Et puis une année de sciences du langage avant de faire prépa, et puis après prépa, et puis concours.
Voilà. Est-ce que ça se passe toujours comme ça aujourd'hui? Je suis un peu obligée de poser la question, mais avec toutes ces histoires de Parcoursup, de...
Non, ouais.
C'est toujours pareil?
Alors, c'est plus le concours.
Ok.
Qui était clairement, tu en as eu l'expérience, donc c'était
très
agréable, hein, franchement, voilà, il y avait 2-3% de réussite, enfin, c'est toujours pas bien mieux aujourd'hui, mais en tout cas, c'est plus via ce qu'il faut.
Mm-hmm.
Donc maintenant, c'est via Parcoursup, voilà, donc c'est, tu montes un dossier, je crois, avec lettre de motivation, CV, puis après, tu peux avoir des euros. Okay. Donc là, pour terminer la potentielle admission. Et ensuite, donc, c'est 5 ans d'études dans des centres de formation qui sont à 21 écoles actuellement okay. en France. À mon époque, quand je passais les concours, il y avait 15 écoles, je crois.
Oui, j'ai ce souvenir-là aussi de 15 écoles. Ouais, ouais.
Et donc maintenant, 21 écoles. Et donc, chaque centre de formation dépend d'un annuaire de médecine. Et voilà, donc tu es formée sur 5 ans. Pendant ces 5 ans, tu as pas mal de stages. Des stages dans différentes structures, des stages cliniques, donc en libéral, en hôpitaux. Voilà, et tu as des stages qui te permettent de découvrir le monde de la petite enfance en crèche.
D'accord.
Stades, voilà. Okay. Alors, en plus, je ne suis pas sûre, je ne sais pas si c'est dans toutes les écoles pareil, mais je pense que oui, en tout cas. Moi, oui, j'ai été formée à Montpellier, c'était comme ça.
Ils essayent de faire l'effort, voilà, de te faire montrer, de te montrer plusieurs structures, plusieurs lieux d'exercice.
Ouais.
Okay.
Comme ça, tu as déjà, tu peux déjà te faire une idée précise de tout ce que, de toutes les casquettes finalement de l'orthophoniste et de tous les lieux d'exercice et tous les modes d'exercice. C'est un métier quand même très vaste.
Pluriel, ouais, ouais. Est-ce que toi, tu as un stage qui t'a marqué ou un endroit où tu t'es dit « Ah, ça, j'aimerais bien travailler
ouais,
ici
ouais. ». Ouais, alors en EHPAD.
Ok. Voilà.
J'aime beaucoup les personnes âgées. J'aime beaucoup, mais depuis que je suis toute petite, en fait, je me souviens que je disais à ma maman que ça me… Je sais pas, que les personnes d'un certain âge, ça me touchait, tu vois.
Ils ont on apprend beaucoup à leur côté. Ouais, ouais. Moi, je partage complètement ton avis. Ouais, ouais.
Donc, j'aime vraiment la personne âgée. Donc, en EHPAD, voilà, j'avais fait un stage qui m'avait bien plu. Et puis après, j'avais fait... Bon, j'ai fait plein de stages hein, pendant mes... Donc, moi, c'était 4 ans d'études hein, à l'époque.
Ah oui, 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 voilà. Exact.
Ils sont passés en 5 ans en grade master il y a quelques années. Mm-hmm. Donc, moi, c'était en 4 ans. Et donc, la dernière année, j'avais fait un stage dans un cabinet libéral qui était censé être un stage pas si long que ça. Puis finalement, j'y suis restée 6 mois parce que je me suis régalée. Oh. Et voilà, et c'est un stage qui m'a permis… Donc, je savais que je voulais travailler en libéral, mais si tu veux, il m'a permis un peu d'orienter des domaines parce que c'est très vaste. On a un champ d'application qui est très vaste. Et donc, ça m'a permis de me dire, bah, tiens, tel ou tel plateau, c'est vraiment des choses qui me plaisent et que, voilà, et que j'aimerais bien développer ça. Voilà.
Et en parlant de champ de compétences, est-ce que tu peux nous donner peut-être un exemple ? Alors, voilà, j'imagine que c'est très vaste, mais je pense que quand on réfléchit au métier d'orthophoniste, le premier public auquel on pense, ce sont les enfants.
Les enfants, ouais.
Est-ce que tu peux nous donner des exemples de troubles auprès d'autres publics qui sont traités ? Voilà, vraiment un petit échantillon juste pour avoir une idée.
Oui, oui. Alors, donc oui, en effet, c'est très, très vaste. Donc, en effet, les enfants, ça représente quand même une grande partie de notre patientèle. Donc, dans les troubles chez les enfants, donc tu vas avoir les difficultés du langage oral, du langage écrit, chez les tout-petits, les troubles de l'oralité, des troubles de la communication dans dans certaines pathologies, notamment des troubles du spectre autistique, dans le cas aussi des troubles d'origine génétique, comme la trisomie, voilà, donc c'est quand même très large, ne serait-ce que déjà auprès de l'enfant, c'est déjà très large, voilà. Et puis ensuite, donc on intervient auprès de en toute petite enfance, chez les enfants, chez les adolescents et donc les adultes, donc personnes adultes ou vieillissantes. Alors ça peut être dans le cas de maladies neurodégénératives, on pense facilement à la maladie d'Alzheimer, mais ouais, il n'y a pas que cette maladie-là. Aussi dans des troubles acquis comme trauma crânien, AVC, voilà. Auprès de l'adulte, on intervient aussi, chez l'enfant aussi d'ailleurs, mais l'adulte aussi, dans le cadre de bégaiement. Mmh. Voilà. Tu peux avoir aussi des troubles de la voix. Voilà, donc, on peut aussi rééduquer les dysphonies. Aussi dans les troubles de la déglutition. Voilà, ça peut être post-AVC, post-Covid. Voilà, j'ai compris en ce moment. Des troubles de la déglutition post-Covid. Voilà, et puis aussi dans le cadre des difficultés de déglutition liées à l'âge, en fait. Mmh. Voilà.
Ce qui est intéressant quand tu parles des enfants, c'est que tu interviens... alors, attends, comment formuler ça ? Tu interviens pour les troubles du langage parlé comme du langage écrit.
Oui, tout à fait. Ouais.
Donc, les dyslexies...
Voilà, ouais. Ouais, tout à fait. Donc, en fait, le langage... Bon, déjà, le langage, il a des dimensions différentes, quoi. Donc, il y a la dimension linguistique où là, c'est vraiment l'articulation, la pragmatique, c'est-à-dire que le fait de pouvoir être adapté à ton interlocuteur, le lexique, la morphosyntaxe, etc. Et puis aussi dans sa dimension psycho-affective et sociale, parce que le langage, c'est un vecteur de socialisation, voilà. Et puis aussi, si tu veux, le langage, il a une dimension aussi cognitive, parce que si tu veux, il peut être altéré dû à d'autres difficultés. Des troubles mnésiques, des difficultés au niveau des ressources attentionnelles, des difficultés au niveau du raisonnement, voilà. Donc c'est quand même très large au niveau du langage, voilà. Et puis donc langage oral et langage écrit, en effet, les personnes qui vont avoir des difficultés, qui vont être des troubles ou des troubles spécifiques. Et là, dans ce cas-là, on parle encore, mais on parlait surtout avant de dyslexie, dysorthographie. Maintenant, on parle plutôt de troubles spécifiques du langage écrit. Ça n'a plus tout à fait le même nom, mais on parle toujours de la même chose. Voilà, donc ouais, c'est très vaste.
Et puis avec des dépistages, j'imagine, qui se font plus vite. Enfin, je parle d'un cas tout à fait personnel, mais je me souviens quand j'étais en maternelle, en primaire. Où il y avait un enfant de temps en temps qui allait chez l'orthophoniste, mais on avait l'impression que c'était une fois que les troubles étaient très très installés, que c'était vraiment délicat. Et même voilà, des expériences que j'ai pu vivre autour de moi en tant que parent, j'entends des enfants qui sont maintenant rapidement orientés vers un orthophoniste pour un dépistage, pour quelques séances, éventuellement un bilan.
Oui, tout à fait.
Les
choses avancent. Bon, déjà, quand même, l'orthophonie, c'est pas si vieux. Je ne pourrais pas dire exactement de quand ça date, mais c'est pas un métier qui est très vieux. Donc, je pense qu'il y a quelques années, on ne connaissait pas finalement aussi bien qu'aujourd'hui. Et puis, la vision de l'orthophoniste, en effet, c'était beaucoup. Moi, quand je parle de mon métier, tu travailles avec des bègues. Voilà. Il y a vraiment un peu comme des fausses croyances, tu vois. On est persuadé que l'orthophoniste, ce n'est que ça. Et en fait, c'est bien plus large. Donc maintenant, on nous connaît quand même mieux. Les médecins, prescripteurs aussi, nous savent mieux quels sont nos champs d'application. Voilà. Après, très souvent, je parle pour les enfants, mais l'orientation est faite très souvent. C'est la maîtresse, en fait, qui va un peu donner l'alerte. Voilà. Soit parce que c'est un enfant de 3 ans et quelques qui a très peu de langage, voire qui ne parle pas du tout. Voilà, donc tout de suite, la maîtresse va en parler aux parents et qui lui-même va en parler au médecin et le médecin va prescrire l'orthophonie. Voilà, et puis il y a aussi pas mal quand même de prévention. Il y a quand même des actions de prévention qui sont menées aujourd'hui et donc voilà, on prend un peu le problème bien plus tôt, quoi.
Ouais. Mais c'est marrant, même le. Alors, moi, je me doutais que le langage, c'était pas que des mots. Je m'en doutais bien, mais moi, j'en ai pris pleine conscience quand j'ai eu ma fille. Je fais un petit instant de racontage de vie, mais j'ai mis en place la langue des signes adaptée au bébé, aux enfants. Que je trouve incroyable. Et j'étais fascinée de. J'ai un article sur mon blog. Je pourrais peut-être le mettre dans la description de l'épisode. Si ça intéresse des gens. Voilà, moi je suis pas du tout professionnelle, c'était vraiment mon expérience en tant que parent, mais
c'est accessible à tous de toute façon.
Mais complètement, avec même très très peu de recherches, il existe plein de livres, il y a même des applications sur smartphone. C'est assez incroyable et j'étais fascinée de me rendre compte à quel point on arrivait à communiquer. Alors en plus on a commencé, notre fille avait 1 an. Il faut d'ailleurs il est conseillé de commencer même encore plus tôt que ça. Je crois des 6 mois ou quelque chose.
Oui, mais même tout petit. Moi, j'ai commencé à signer, moi, avec ma grande, du coup, un petit peu plus tard, je pense vers les 9 mois, tu vois.
Et c'est bien.
Ma deuxième, les signes faisaient partie de communication avec la grande, voilà, et du quotidien. Donc, j'ai fait ça plus tôt.
C'est fascinant. J'ai trouvé ça incroyable. Alors, on était très soutenus par l'équipe de la crèche qui faisait aussi la langue des signes. Donc, c'était chouette. Du coup, il y avait vraiment une approche globale. La pédiatre n'était pas du tout réfractaire à ça non plus. Donc, on a été bien entourés. Mais il y avait quand même des personnes de notre entourage qui disaient « Mais elle va parler moins vite. Est-ce que ça va pas retarder ?» Ouais, c'est marrant hein, de penser ça. Bon, alors voilà, spoiler, pas du tout. Non, non, elle a parlé tout à fait quand il fallait.
Ça permet vraiment, parce que le langage, ben, c'est pas que le langage verbal. Hein.
C'est ça, oui, oui.
Voilà, je crois que c'est dans la transmission d'un message, t'as 80% qui passe par du non-verbal, tu vois. Donc c'est quand même énorme. Ouais. Enfin, 70 ou 80%, donc c'est quand même très important. Et oui, ça permet ben, de mieux se comprendre. Voilà, ça permet aussi, je trouve, de limiter les situations où voilà, ça peut vite partir en crise parce qu'en fait,
on ne comprend
pas son enfant et il ne comprend pas non plus. Et voilà, donc ouais, c'est un
super ouais, les petites situations d'incompréhension où ouais. Ça peut vite devenir des accès de colère parce que voilà, ouais. Les enfants, ça passe de 0 à 100 en très peu de temps. Et puis, enfin, moi, j'ai le souvenir aussi, on avait réussi à lui apprendre le signe pour dormir, pour dire qu'elle avait envie de dormir. Et du coup, elle arrivait à nous dire qu'elle était fatiguée au bon moment où moi, si elle ne me l'avait pas dit, je ne m'en serais pas rendu compte. Et du coup, je ne l'aurais pas couché à ce moment-là. Enfin, bon, voilà, bref, c'était une petite parenthèse.
Mais c'est très, très intéressant.
Oui, c'est fou.
En plus de crèche. Qui s'y mettent, donc ouais, c'est top.
Ah ouais, c'est génial. Et puis donc voilà, ça ne retarde pas l'acquisition du langage oral parce que l'enfant s'adapte aussi à son univers et se rend, je crois, assez vite compte que bah oui, on parle avec nos cordes vocales, on s'exprime comme ça aussi.
C'est une transition, si tu veux.
Exactement.
Une transition, quoi, voilà. Mais non, le langage oral se développe après très bien. Voilà, à part évidemment quand on est dans le cadre de difficultés.
Bien sûr.
Mais chez un enfant tout venant qui ne va pas avoir de difficultés particulières à monter son langage, au contraire, c'est un outil super intéressant.
Ah ouais, c'est chouette. Mmh. Donc toi, après ce stage en libéral, tu obtiens ton diplôme d'orthophoniste.
Oui.
Et alors, tu décides de t'installer du coup en libéral aussi.
Oui, alors. Donc, je voulais m'installer en libéral. J'avais pas spécialement envie de travailler en structure. Voilà, le monde du libéral me plaisait bien, le fait de pouvoir organiser mon emploi du temps. Voilà, même si à ce moment-là, j'avais pas d'enfant, j'avais quand même, j'ai une vie, à part l'orthophonie. Donc, j'avais quand même envie de pouvoir, lier tout ça. Et donc, le libéral, c'est vrai que ça me semblait être, ce qui me correspondait aussi avec ma personnalité. Donc j'ai en fait en dernière année j'ai aussi eu un stage avec une orthophoniste qui faisait pas mal de surdité, en fait c'était un stage surdité avec elle, et elle avait un cabinet, elle partait à la retraite, et donc elle m'a proposé de récupérer sa patientèle. Donc j'ai atterri dans ce premier cabinet là où j'ai récupéré sa patientèle. Donc là c'est plutôt au centre Montpellier. Et puis après j'ai fini par monter mon propre cabinet avec une copine aussi orthophoniste.
Génial.
Voilà, et donc depuis, en fait, je suis en libéral depuis le début, finalement. Et j'ai quand même, comme je te le disais, cette population vieillissante m'intéresse vraiment, et je suis vraiment à l'aise auprès de ces personnes-là. Donc, je me suis aussi rapidement orientée vers des interventions en EHPAD, voilà. Sachant que lors de ta dernière année, en fait, enfin, les deux dernières années, tu prépares un mémoire de recherche. Tu fais un mémoire de recherche. Et donc, mon mémoire de recherche, lui, c'était sur de la formation auprès des aidants familiaux dans le cadre des difficultés de déglutition lorsque le patient, enfin, le proche présente une démence de type Alzheimer. Donc, si tu veux, c'est déjà aussi une population via mon mémoire de recherche que j'ai beaucoup fréquenté. Voilà. Donc, en fait, tout s'est un peu fait naturellement. Voilà. Le libéral et aussi en EHPAD, voilà.
C'est chouette. Ouais, c'est un bon mix. Et puis, ça te permet de rester proche de cette population que tu apprécies. Alors, j'imagine que pour s'occuper d'enfants, on peut éventuellement passer par du jeu, des choses comme ça. Et du coup, comment est-ce qu'on rééduque? Ou comment est-ce qu'on accompagne une personne âgée? Parce que voilà, j'imagine qu'on ne fait pas des jeux. Alors, comment est-ce qu'on arrive à trouver des biais pour l'aider?
Oui, alors l'idée, c'est qu'en effet, c'est que ce soit pas que la personne ne se sente pas infantilisée, quoi. Donc, bien sûr que ça ne va pas être... On peut prendre des jeux, mais c'est juste des jeux qui vont être adaptés. Hein. C'est un vecteur de travail, de toute façon, qui est super intéressant. Mais de toute façon, déjà, l'idée quand même auprès de cette population-là, c'est mon intervention, l'intervention de l'orthophoniste. Elle est là pour faire en sorte que la personne soit un être communicant le plus longtemps possible. Donc, on va travailler sur le langage et aussi sur ce qu'on appelle les compétences socles, un peu tout ce qu'il faut tout ce qui doit fonctionner correctement pour que le langage fonctionne bien. Donc, on va travailler aussi sur la mémoire, les capacités attentionnelles, les fonctions exécutives, c'est-à-dire le fait de pouvoir planifier une tâche, de pouvoir revenir en arrière si elle ne va pas, de pouvoir s'inhiber à dire des choses ou à faire des choses, pouvoir planifier, s'organiser. Ça, c'est des choses aussi sur lesquelles on va travailler, mais toujours en gardant en tête que voilà, notre rôle, c'est le langage et la communication. Donc, on peut passer par des petits jeux adaptés. Et après, il y a tout un tas, si tu veux, de supports orthophoniques et purement orthophoniques qui existent pour ça. Mais moi, j'ai tendance quand même à mêler un peu de tout. C'est-à-dire que je peux proposer une activité avec un jeu de Uno et en même temps, alors que je peux détourner, tu vois.
Bien, complètement, oui.
Là, mon objectif, j'ai des objectifs différents. Et en fait, voilà, je sais ce que je veux travailler et je sais aussi que je peux utiliser tout un tas de matériel pour travailler cette compétence-là.
Ouais, mais t'as la finalité, puis après, t'as tout le chemin pour y arriver, quoi.
Voilà. Et puis après, avec certains, y a quand même, dans le vieillissement, t'as des difficultés auditives, visuelles, qui vont venir quand même rentrer en ligne de compte et qui peuvent rendre plus compliqué l'utilisation de certains outils. Donc, en fait, tu vas vraiment t'adapter à chaque fois. Donc, j'aurais du mal à te dire précisément qu'est-ce que j'utilise et comment je fais, mais en tout cas, c'est varié, voilà. Il y a du matériel classique, tout venant, tout le monde peut acheter, des choses plus orthophoniques.
Ok.
Voilà.
Est-ce que tu rends visite à tous les résidents de l'EHPAD ou est-ce que c'est le médecin de l'EHPAD qui t'oriente vers des patients bien spécifiques?
Alors c'est comme ça. Alors soit c'est le médecin parce que lors de l'une de ses visites, il a remarqué des difficultés. Après, c'est souvent quand même les infirmiers de la structure qui repèrent des difficultés et puis voilà, qui sont bien au courant de notre rôle, de ce qu'on fait et qui eux vont demander au médecin une ordo pour un bilan, voilà.
Au niveau du cabinet, vous êtes donc deux orthophonistes maintenant,
oui.
Avec chacune votre patientèle bien définie.
Oui, alors donc le cabinet s'est réorganisé un petit peu ces derniers temps, donc on est toujours deux orthophonistes. Moi, je vais prendre en charge plutôt les enfants pour des difficultés de langage écrit, donc primaire, collège, tu vois.
Ok.
Et des difficultés, j'en ai pas parlé non plus, mais on intervient pas mal sur le plan du raisonnement logique et de la cognition mathématique. Donc moi, j'ai pas mal de patients qui viennent pour des difficultés de ce type. Donc voilà, langage écrit, raisonnement logique et cognition maths et neuro, donc adultes, personnes âgées. Et ma collègue, elle est surtout sur du tout petit. Alors, dans le cadre de trisomie, autisme, des enfants sans langage, elle prend aussi quelques langages écrits aussi. Mais voilà, on est un peu, on se complète. Hein. Je ne peux pas te dire vraiment nos préférences et nos spécialités parce que finalement, on est formé à tout.
Bien sûr.
Et puis, selon où tu travailles aussi, tu n'as pas trop la possibilité de choisir finalement. Moi, dans ma région, on est quand même bien doté en orthophoniste. Bon, il en manque, en tous les cas, partout, de toute façon.
Globalement, ouais, ouais.
Et bon, c'est moins pire chez nous, on va dire ça comme ça. Donc, en fait, j'ai pu finalement, petit à petit, me former à des pathologies qui me plaisaient vraiment. Donc, j'avais la formation de base. Et puis après, on a des formations qui nous sont proposées, payantes, bien sûr. Et donc, ils nous permettent d'approfondir certains domaines et certaines pathologies. Donc, moi, voilà, tu vois, langage écrit, raisonnement logique, cognition maths et neuro, c'est les trois domaines dans lesquels je me suis formée.
Génial.
Voilà.
Okay.
Donc, si tu veux, je choisis pas vraiment, mais un petit peu quand même. Et puis, les orthophonistes aux alentours et les médecins savent que, moi, je fais pas telle ou telle pathologie, mais je vais faire rééducation logique. Donc, on va me les envoyer, etc. Voilà.
Voilà. Après ça se fait plus naturellement, j'imagine. Oui, voilà, on connaît ce que tu fais.
C'est un peu le réseau, quoi.
Ouais, exactement. Oui. Est-ce que pendant les confinements successifs, vous avez quand même fait des consultations à distance, en visio? J'arrive pas trop à me rendre compte si c'est possible.
Alors, oui, c'est possible. Alors moi, j'étais en congé mat, donc je n'ai absolument aucune expérience de la téléorthophonie, mais
téléorthophonie,
ouais. C'est ça.
Voilà.
Téléorthophonie. Donc moi, j'ai pas du tout fait.
Okay.
Donc j'ai suivi ça de loin parce que j'étais remplacée par une orthophoniste qui, par la force des choses, a mis ça en place. Donc je n'ai pas d'avis ni d'expérience là-dessus, mais en effet ça a été possible. Alors après, voilà, pas avec tout le monde, avec la personne âgée, ben, c'est compliqué. En EHPAD, il n'y avait plus de visite, donc il n'y a plus d'orthophonie pendant un moment. Voilà, mais c'est vrai que j'ai suivi tout ça d'un peu loin.
Qu'est-ce que tu dirais à un étudiant qui, un lycéen par exemple, qui se pose la question de devenir orthophoniste, qui ne sait pas trop, qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire?
Non, c'est un super métier, donc oui, j'aurais envie de... J'aime vraiment ce que je fais, vraiment, profondément, j'aime vraiment ce boulot. Je le trouve, bah ouais, je dirais que c'est hyper, je trouve ça hyper épanouissant, je trouve ça varié. Je trouve ça riche, j'ai l'impression d'apprendre tout le temps, tu vois. Voilà, j'ai l'impression d'apprendre tout le temps, alors pas que sur le plan pro mais perso aussi, parce que voilà, chaque famille a son histoire et que voilà, ça, ouais, ça m'enrichit toujours en fait. Voilà, mais après je pense que c'est dans tous les métiers de soins. Après on a quand même, on peut rapidement faire partie de, on est presque des fois un membre de la famille, tu vois.
Ouais, complètement.
Voilà. Parce que alors il va y avoir des familles qu'on va suivre sur le long cours, parce que voilà, les difficultés vont être importantes dans le cadre de certaines pathologies, et notamment tu vois dans des maladies comme la maladie de Parkinson, ces maladies neurodégénératives où tu vas suivre la personne et aussi l'aidant. Parce qu'il y a le patient, mais il y a aussi l'aidant. Alors l'aidant naturel, ça peut être le fils, la fille, l'époux, l'épouse. Donc c'est vraiment finalement, oui, un élément, une personne en plus dans la famille, quoi.
L'aidant qui peut être, j'imagine, à la fois un allié, puis à la fois aussi, pas du tout un ennemi, mais je veux dire quelqu'un peut rendre la prise en charge peut-être plus compliquée.
Ouais. Bah, je pense que des fois, c'est parce qu'ils n'ont pas, compris, quoi. Tu vois, des fois, ils n'ont pas compris, ils sont parfois dans un peu le déni de certaines difficultés. Voilà, et puis voilà. C'est vrai que c'est pas toujours les dents et pas toujours les dents.
Oui, oui, c'est ça. Ouais, ouais.
Enfin, pas de suite. Disons. Ouais, après, oui. On arrive à mettre en place des choses avec les dents, mais ouais, c'est pas toujours simple, c'est vrai. Ouais.
Ou peut-être quelqu'un qui voit un jeu, par exemple, qui ne voit que le jeu et oui, qui ne visualise pas la finalité.
Ouais, ouais. Après, c'est là aussi notre boulot, c'est de faire le lien et d'intégrer les dents à la prise en charge. Je vois pas mal, moi, en raisonnement logique, tu vois, je demande quand les parents peuvent de venir assister aux séances. Alors, ils ne sont pas au bureau avec moi et avec l'enfant, ils sont un peu, tu vois, en retrait.
Ouais.
Mais oui, ils sont là pour pouvoir, et notamment au moment du bilan, c'est intéressant, pour que, voilà, pour pouvoir voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, et puis en séance, de venir de temps en temps pour, voilà, pour voir ce qu'on fait. Après, en langage écrit, c'est quand même plus simple de comprendre, je pense, sans que l'on voit, mais dans certaines pathos, et notamment en rééducation du raisonnement logique, je trouve que c'est intéressant qu'ils puissent venir et voir un peu. Et puis faire le lien, tu vois, faire le pont entre ce qu'on fait en séance et ce qui peut être mis en place à la maison ou à l'école, voilà. C'est intéressant, ça. Mais voilà, je pense qu'il faut vraiment les impliquer dans la prise en soin, en fait.
Ouais, ouais. Puis j'imagine aussi leur expliquer que on peut pas résoudre des problèmes en une séance par semaine, qu'il y a des choses à mettre en place, à intégrer dans le quotidien pour qu'il y ait une continuité, quoi.
Ça, c'est difficile, hein. C'est difficile parce que des fois, le niveau socioculturel ne permet pas ça, parce qu'en fait, c'est des gens qui ne vont pas. Si tu veux, pour eux, ils t'amènent leur enfant, c'est toi qui fais, et puis eux, voilà. Donc ils n'ont pas, ils sentent pas forcément. Le rôle qu'ils ont à jouer, même si tu leur expliques, tu vois, ça va pas forcément être possible pour eux d'accepter ça, de comprendre et de mettre en place des choses. Donc bah, pas de problème, de toute façon nous on est là pour prendre en soin tous les patients, voilà, qu'importe leur niveau socioculturel. Donc voilà, mais tu sais que voilà, mes exigences par exemple ne vont pas être toujours les mêmes, et voilà, on va s'adapter.
Et que ça demandera parfois plus de temps pour
exactement,
un autre enfant.
Plus de temps, plus d'efforts. Et puis, tu vas avoir des familles où voilà, ça va être beaucoup plus fluide, où ils vont mettre en place des choses. Voilà. Mais c'est pas toujours simple.
J'imagine.
Et au-delà de ce travail en libéral, fort intéressant, j'essaie aussi un peu de... Enfin, je fais partie de l'APO, qui est une association de prévention en orthophonie de l'Hérault. Voilà, donc il y a des associations de prévention un peu partout. Et donc, cette association de prévention, donc, fait de la prévention dans le cadre des difficultés de langage chez le tout petit. Moi, je fais partie donc d'un groupe de réflexion où on monte des formations sur les troubles de la déglutition à destination des aidants naturels, donc des aidants familiaux, ou des aidants professionnels. Donc voilà, il y a des petits. On est en train de travailler, de réfléchir sur des formats de formation, parce qu'il y a quand même pas mal d'EHPAD, notamment, ou d'associations qui sont en demande de formation. Voilà.
Ah, ok.
Notamment
super.
Pour les aidants professionnels. Moi, je fais déjà ça dans l'EHPAD dans lequel je travaille, avec l'ergo de la structure et le médecin co. On a monté, proposé une formation sur les troubles de la déglutition. Donc, on essaye de faire en sorte, si tu veux, que le patient soit pris en charge dans sa globalité et que les messages puissent passer au mieux
entre
les différents intervenants. Donc, ça, c'est très intéressant. J'aime beaucoup tout le côté formation.
Donc, pour aider les soignants peut-être à faire du dépistage précoce des choses comme ça ?
Oui, okay. Par exemple, ouais, dépistage précoce et adaptation. Il y a des différentes adaptations qui peuvent être mises en place. Donc là, je te parle dans les troubles de la déglutition,
oui.
Dans la dysphagie. Des adaptations matérielles, posturales, alimentaires.
Génial.
Donc voilà, il y a pas mal de choses à faire et je pense que parfois certains soignants mettent en place des choses en pensant bien faire, mais en fait, ils n'ont pas eu le fin mot d'histoire, tu vois. Certaines informations et du coup on revient sur ce qui est mis en place et on voit ce qui pourrait être plus adapté selon telle ou telle difficulté.
Il y a souvent plein de bonnes volontés puis parfois pas les bons outils, pas les bonnes infos qui circulent quoi.
Il suffit de communiquer en fait.
Exactement.
Et donc ça se passe bien. Donc ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup.
Génial.
Voilà, j'ai régulièrement des stagiaires aussi.
Donc,
stagiaires,
la boucle est bouclée.
La boucle est bouclée, exactement. d'école d'orthophonie, donc c'est souvent l'école d'ortho qui est à côté de chez moi, mais elles peuvent venir aussi de plus loin. Donc ça c'est super intéressant, j'adore.
La transmission.
Chouette, ouais, ça c'est un truc qui est, voilà. Et du coup à la rentrée là, je vais être chargée de cours à la fac pour les 4e et 5e années. Ouais, c'est un projet qui me tenait à cœur et qui se concrétise, donc ça c'est super chouette.
Génial.
Voilà.
Donc, alors tu interviens sur un domaine bien spécifique.
Oui, donc le raisonnement logique, cognition maths. Voilà.
Trop bien.
C'est ce qui me plaisait, donc c'est super, ça me demande beaucoup de boulot.
J'imagine. J'imagine.
De préparation, etc. Mais ça va
pour que
être
ça soit didactique, pour que ça soit agréable à écouter, pour s'adresser à tout le monde. C'est un exercice radicalement différent, j'imagine.
Oui, c'est ça. Donc, on fait confiance. Donc, je donne tout ce que je peux.
Je suis certaine que ça va être. Alors, stressant, j'imagine bien, mais hyper épanouissant.
Ouais, je pense que ça va être super. Donc, voilà. Ça, j'aime beaucoup. Mais le côté de transmission. Et puis, avoir des stagiaires, c'est. En fait. Tu sens que tu leur apportes, mais qu'ils t'apportent aussi, quoi, parce qu'en fait, ils ont des questionnements, et ces questionnements, je les avais il y a quelques années. J'ai été diplômée en 2013, donc c'est pas si vieux que ça. J'ai bien conscience que dans les stages cliniques, on a besoin de voir, de compléter la théorie, et que ces stages sont super importants. Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup, ça. Ouais.
Et moi j'aimais beaucoup encadrer des stagiaires parce que alors c'est pas toujours simple mais
non,
ça te confronte à tes méconnaissances parfois ça te remet en question puis eux ils ont toujours la science ça évolue il y a plein de choses qui évoluent il y a des années de recherche derrière plein de choses et puis ça fait du bien de s'en mettre un peu à la page
tout à fait c'est pas simple et puis si tu veux c'est ce que on en parlait avec ma collègue encore il n'y a pas si longtemps, c'est-à-dire que c'est tellement un métier qui est jeune quand même et qui avance, il y a beaucoup de recherches et se former, moi ça me paraît quand même, continuer à se former, je trouve ça hyper important et on s'en rend compte aussi quand on est stagiaire, c'est-à-dire ils vont avoir telle ou telle réflexion et du coup ils vont t'amener à te dire ça faut que je creuse un peu plus parce qu'en effet, puis tu as tes habitudes en fait. Tu as tes habitudes, tu sais ce qui fonctionne, tu sais ce qui fonctionne moins bien, il y a des façons de faire qui vont coller avec ta personnalité, où tu vas te sentir plus à l'aise, etc. Et puis parfois des choses que je vais laisser un peu de côté, ou tu vois, même des supports, ou voilà, les stagiaires proposent souvent des choses, même notamment en 4e, 5e année. Et du coup, tu te dis, ah bah oui, tiens, on va recroiser un peu ça, recreuser, pardon, un petit peu ça. Et voilà, donc, c'est toujours, autant les stagiaires que les formations, c'est compliqué parce que ça te redemande à chaque fois de, finalement, pas de faire table rase de tout ce que tu savais avant, mais d'être capable de mettre tout de côté.
De tout remettre en question.
Voilà, voilà, c'est ça, exactement. C'est que tu remets tout en question tout le temps et ça peut être déstabilisant, quoi. Et c'est vrai que j'ai parfois la sensation de jamais faire assez bien, tu vois.
Ouais, bah oui, forcément.
Cette petite pression. Et puis clairement, en libéral, tu es tout seul, hein, dans ton bureau.
Et oui, alors il faut se faire confiance aussi. Voilà. C'est dur, ça. Hein.
Ouais, il faut se faire confiance. Et c'est vrai que voilà, personne va venir demander des comptes.
Ou te taper sur l'épaule et dire c'était super.
Tu vois, non, c'est dur. Il faut passer ça, en fait. Donc c'est pas ça. Ouais. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est important aussi de faire un bilan, parce qu'on n'en a pas trop parlé, mais donc la prise en soin orthophonique, elle commence toujours par un bilan. Et donc ce bilan, on va choisir différents outils adaptés selon les difficultés pour lesquelles le patient vient consulter. Des outils, on verra un moment d'anamnèse où on va prendre le temps, voilà, de discuter avec le ou des proches, pour essayer de comprendre, voilà, quelle est la situation et quelles sont les difficultés. Voilà, et ce moment, je trouve qu'il est aussi très très important pour la suite de la prise en charge, quoi. Et j'essaie vraiment de prendre le temps sur ces bilans et sur la rédaction de ces bilans. Alors pas parce que je sais que je vais transmettre au médecin, bon, évidemment, hein, pour cette raison là aussi, mais aussi c'est vraiment le point de départ de la prise en charge, en fait. Et je trouve important. Alors après, évidemment, un bilan, c'est une analyse clinique, une analyse normée avec des tests, voilà. Donc c'est un moment précis. Mm-hmm. Donc je sais que c'est pas représentatif toujours de.
Bien
de,
sûr,
de,
oui,
de
oui.
Faire voilà le patient, ça peut être anxiogène, hein, pour certains, le bilan. Mm-hmm.
Mais ils peuvent perdre leurs moyens aussi, voilà, devant donc, le stress de la situation.
Ouais. Et puis parfois, tu te rends compte qu'en fait, en séance, quand tu fais ton bilan, ce bilan m'amène à dire qu'on a besoin de séances de rééducation ou pas. Hein. Et bon, en tout cas, quand il y a besoin, on se rend compte après que voilà, le patient est un peu plus détendu une fois qu'il est en séance, il n'est plus dans cette situation anxiogène de bilan et qu'il va réussir à faire des choses qu'il n'arrivait pas à faire au moment du bilan. Donc,
c'est un peu le syndrome de la blouse blanche sans blouse blanche, quoi.
Ouais, voilà, c'est un peu ça. Ouais. Donc, je me laisse toujours un peu de temps. Voilà, il y a le bilan, mais et je le dis bien aux parents, hein, dans le cadre, voilà, de prise en soin auprès d'enfants, que, voilà, il y a le bilan, et puis après, l'enfant est capable de faire.
Puis le bilan, j'imagine, c'est aussi faire le point sur ses habitudes de vie, s'il a des frères et sœurs.
Ouais, tout à fait. Dans l'anamnèse, tu poses des questions sur le plan, de la scolarité, des difficultés, pourquoi est-ce qu'il vient, et puis après, tu as toute la sphère familiale et tout à fait, ouais. Est-ce qu'il y a eu des antécédents, des difficultés de ce type,
Il
y a des frères, des sœurs, est-ce que les parents vivent ensemble, voilà, tout ça c'est à prendre en compte. Et puis aussi les troubles comorbides, quoi. Il y a des enfants qui viennent avec un diagnostic de TDA ou TDAH, de troubles de l'attention, et donc forcément tu le sais que ça va impacter les compétences de l'enfant, enfin, en tout cas ses capacités à faire certaines choses. Alors, c'est pas qu'il n'est pas capable de faire, c'est juste que parfois le trouble attentionnel est tellement important que ça prend le pas sur sa scolarité, sur ses apprentissages. Ouais. Donc, voilà, tout un tas de choses à prendre en compte. Et puis après, chez la personne adulte, ça peut être, tu vois, un traitement. On va demander est-ce qu'il y a un traitement qui est mis en place, parce que parfois, l'effet de certains traitements peuvent influer sur le langage et les difficultés cognitives plus globales. Donc, on parlait de mémoire, d'attention, de fonction exécutive, mais ça peut être aussi en lien avec, à mettre en lien avec des traitements médicamenteux.
Type neuroleptique, anxiolytique, ce genre
oui,
de choses.
Oui, tout à fait, ouais, ouais.
Okay. Et
qui rendrait, voilà, le patient déjà beaucoup moins vigilant.
Eh oui, c'est sûr.
Voilà. Ouais. Donc avec un langage et une communication qui va être plus compliquée.
Oui. Ah, ouais, ouais, ouais. Eh ben, dis donc, il y a du boulot, hein.
Oui. On ne s'ennuie pas, voilà.
Mais je vois ça.
Étudiant que potentiel futur orthophoniste, qu'on ne s'ennuie pas.
Voilà.
Donc, voilà. Et c'est très sympa. Après, tu vois, je pense qu'en libéral, on peut avoir parfois la sensation d'être un peu seul, comme on disait tout à l'heure. Alors après, moi, j'ai de la chance d'être avec une collègue avec qui on échange beaucoup. Voilà, je travaille aussi avec une ostéo, on est dans le même cabinet où on échange aussi, c'est super intéressant. Mais c'est vrai que tu peux vite te retrouver entre tes quatre murs un peu tout seul, quoi.
Et oui, oui, oui.
Voilà. Bien que, voilà, on sait qu'une prise en charge, elle est efficace quand elle est globale. On conseille très souvent à certains patients d'aller faire des bilans complémentaires. Donc, le bilan orthoptique, bilan neuropsy, bilan psy, voilà, on leur conseille d'aller voir un neuropédiatre, par exemple, ou un neurologue pour des patients adultes, parce que parfois, les patients adultes arrivent ici sur demande de leur médecin traitant, mais voilà, sans être non plus allé chez un neurologue. Donc, on va envoyer, si tu veux, vers d'autres corps de métier médicaux ou paramédicaux, mais il n'y a pas toujours d'échange, quoi. Voilà.
Oui, oui.
On va les envoyer et puis le patient il revient avec pas toujours un compte rendu et voilà donc c'est pas toujours ça, je fais pas du tout une généralité, hein.
D'être conscient de ça, oui
ça c'est pas toujours facile et du coup en libéral voilà tu peux te retrouver un peu sensation d'être un petit peu isolée, quoi, ce que j'ai pas du tout en EHPAD, tu vois.
C'est ce que j'allais dire, voilà. Du coup ton poste en EHPAD te fait peut-être du bien de ce côté là aussi pour cette sensation d'équipe.
Oui, ça c'est super et je pense que c'est ce qui fait un bon équilibre, tu vois. Oui, en EHPAD c'est top parce que t'as vraiment l'échange avec les infirmiers, les médecins, l'ergo et puis les
aides-soignants,
donc ça c'est chouette et c'est ce que j'ai un peu moins en libéral, quoi. Mais bon, voilà, le libéral a aussi ses avantages.
C'est sûr, c'est sûr. Bah, merci beaucoup, Noémie.
Bah, merci à toi.
Je pense qu'on pourrait y passer bien plus de temps pour expliquer tout ce que tu fais, mais je crois que ça nous donne déjà un très bon aperçu de
ce métier,
tout ce que comporte ce beau métier.
Ouais. Vraiment un super métier.
Ouais, ça se ressent. Hein.
Voilà.
On va finir par un petit portrait chinois. Ouais. Donc je retrouve mes questions, les voici. Ça fait, tu vois, 22 épisodes que je les pose, mais j'ai encore besoin de les avoir sous les yeux. La première question, si tu avais une baguette magique, quel outil voudrais-tu inventer pour t'aider dans ta pratique?
Alors, un outil, je ne sais pas, mais du temps en plus, quoi.
Ouais.
Un jour en plus, ouais. Je cours après le temps, clairement. C'est du temps un jour de plus, parce qu'on n'en a pas trop parlé, mais quand même, si j'ai 2 secondes.
Oui, mais bien sûr, mais le temps est limité.
Voilà, tout ce qui est paperasse, hein. On a quand même beaucoup de... Alors, je mets dans les gros guillemets paperasse. Gérer la paperasse au niveau comptable,
bien sûr,
au niveau de la caisse retraite... Voilà, il y a tout un tas de choses à faire et puis des bilans à rédiger parce que nos bilans, donc on les fait passer avec le patient évidemment en face de nous et après il faut les rédiger. Et donc ça peut prendre de 1h30 à 3h un bilan pour le rédiger. Donc ça, c'est le temps que tu prends sur tes soirées, tes week-ends. Voilà. Donc un jour de plus pour ça, mais aussi du temps en plus avec les patients. Parce que les séances, ça va d'une demi-heure à 3/4 d'heure et il y a beaucoup de demandes. Certains patients, tu ne peux les voir qu'une fois par semaine alors qu'on a envie de les voir 2 fois facilement. Donc, du temps.
Plus. Ouais.
Vraiment.
Question suivante, la phrase que tu prononces le plus au quotidien dans ton travail.
Alors, je pense que je dis « Quel jour sommes-nous ?» Voilà, ça c'est la question. Quel jour sommes-nous? Et je me suis reconnue d'ailleurs dans le podcast avec, je crois que c'est Marion que j'ai écouté. Et quand elle a dit cette phrase, j'avais en tête, tu vois, je réfléchissais, je me disais, en fait, j'aurais dit vraiment la même chose. Quoi. Voilà. Quel jour sommes-nous? Autant chez les enfants que les adultes, c'est ma première question. Et comment ça va aujourd'hui? Enfin, comment vous vous sentez aujourd'hui? Ça va? Vous avez bien dormi? Voilà.
Ah, c'est chouette. Question suivante, plutôt thé ou café?
Café, je l'ai sous la...
Ah bah oui, je le vois.
Non, on a une super machine qui fonctionne super dur.
Faut en profiter. Plutôt crocs ou basket?
Basket.
Ah ouais. Mais
j'ai pas de blouse blanche.
Ouais, du coup, quand tu es en EHPAD,
ouais,
tu es en civil.
On n'a pas de... Je suis en civil tout le temps. C'est vrai qu'ils nous ont jamais demandé d'en mettre, donc... Un petit peu là, quand on est revenu de. Quand je suis revenue de congé mat et que voilà, on était sorti d'une des vagues Covid.
D'une des vagues, ouais, c'est ça.
Voilà. On nous demandait d'en mettre une, mais tu vois, après c'est terminé. Et je crois que ça plaît bien aussi.
Oui, ça rajoute peut-être un peu de proximité.
Oui, voilà. Ouais. Ah, ouais.
Oui, la blouse blanche, c'est bien sympa, mais ça peut quand même créer un peu une distance.
Oui, ouais, ouais. Parfois. Donc, non, c'est...
Ok. Question suivante. Plutôt 10 ans dans le même lieu d'exercice ou 10 lieux d'exercice en un an?
Non, 10 ans dans le même lieu d'exercice. Ouais.
Pour le moment, le libéral, c'est ton truc.
Ouais. Ça, c'est routinière. Je suis bien dans un petit quotidien que je connais, que je maîtrise, que, voilà, où j'ai mes marques. Oui, plutôt ce genre.
Et puis à la fois, tu dis que tu es loin d'en avoir fait le tour, donc
il y a de quoi faire. Donc, ouais,
voilà, il y a de quoi faire.
Ouais, bien comme ça.
Et la dernière question, si tu n'avais pas exercé le métier d'orthophoniste, vers quelles études ou vers quel métier te serais-tu orientée?
Alors, j'avais pensé, parce que quand même, ce concours était juste pas facile.
Oui, c'est vrai. Hein.
Donc, j'avais une pseudo route secours, mais que j'ai quand même, elle est toujours restée route secours, parce que je me suis quand même bien accrochée pour avoir ce concours. J'aurais bien fait une école de communication, je pense. Ouais, une école de com, ça m'aurait plu, ou de journalisme, tu vois. Okay. Et école de communication, voilà. Après, j'avais jamais trop creusé parce que, voilà, mon idée d'être orthophoniste, elle restait en première ligne. Mais, ouais, école de com.
Mais c'est vrai que je me souviens en prépa. Alors moi je pourrais pas dire que le métier d'infirmière c'était une route secours. Ça a plutôt été une révélation à tel point que j'ai fini par obtenir le concours d'orthophoniste et que je suis pas rentrée dans l'école. Donc c'est que c'était pas une route secours. Mais c'est vrai que ce concours. Alors moi je voudrais pas dire de bêtises, mais à Lyon, j'ai passé Lyon, Paris et Nice à l'époque. Si je dis pas
Lyon on était 3000. Hein.
90 places pour 3000. Hein. Ou 2800.
Ouais.
On avait passé le concours dans cet immense truc qui ressemblait à un stade de foot, là. C'était terrifiant.
Terrible. Ah ouais, non, mais quand tu rentrais dans cette... C'est sale, c'est en gare, quoi. On s'en passe.
Mais complètement, oui. Avec les tables, avec les lettres les lettres dans l'ordre alphabétique, c'était... Oh là là.
Ouais, c'était horrible, hein. Ouais, c'est
et vraiment... Nice, tu feras 30 places pour 400. Bon, c'était pas beaucoup mieux, mais... Voilà, il y avait quand même 30 places sur 400 candidats, quoi. Mais
c'est 400, t'es sûr? Parce que ça me paraît
peut-être plus
beaucoup,
encore.
Hein. Oui, parce que tu vois, Montpellier, quand moi j'ai vu en 2009, on était pratiquement 2000 pour 35 places, tu vois. Et je pense que Nice, ils sont aussi.
J'avais le souvenir. Alors, tu vois, je me trompe peut-être. En tout cas, Lyon, entre 2500 et 3000, ça, j'en suis certaine, pour 90 places. Mais Nice, je me souviens pas bien. Mais c'est vrai que c'était redoutable. Et du coup, d'où l'obligation d'avoir, comme tu dis, une route secours. Parce que,
Oui, voilà. Mais après, si tu veux, je l'avais, mais sans la.
Oui,
la garder,
sans y croire vraiment.
C'est douloureux, en fait.
Oui, ouais, c'est
que,
ça.
Voilà, que éventuellement, Marto, ça pourrait pas être pour moi. Et voilà. C'est douloureux. Donc, je pense que je gardais ça un peu à distance. Mais bon, il fallait
pas voir.
Mais infirmière, je m'étais questionnée, mais en fait, tu vois, la vue du sang et l'enjeu, en fait, non, j'aurais pas pu.
c'est vrai que c'est autre chose.
Ouais. C'est super et j'adore travailler avec les infirmières, mais non, j'aurais pas pu. Pas possible.
Ouais, la vue du sang, c'est vrai que c'est quand même, c'est un critère, bon, voilà, faut.
Bah, je suis pas sûre que j'aurais pu m'y faire, tu vois. Mais dans ma famille, j'ai des infirmiers, infirmières, et voilà, avec qui on discute pas mal. Et tu vois, je me rends compte que vraiment, c'était pas pour moi, pour plein de raisons, et que je suis vraiment à ma place. Quoi.
T'es à ta place, ouais.
Ouais, je suis à ma place, exactement.
Ça se sent. Mm. Bon, c'est chouette. Un grand merci, Noémie.
Merci à toi, Marielle. Et puis, vive Compresse Esparadrap.
Oh, merci, t'es adorable. Je mettrai tu as parlé de l'association
La
pro, voilà, j'essaierai de mettre des liens sous la vidéo si ça peut intéresser. Sous la vidéo. Sous l'épisode. Entre vidéo, article, je me mélange les pinceaux. Sous l'épisode, en description de l'épisode. Et puis voilà, si tu veux aussi qu'on rajoute des liens, on va en discuter. Mais voilà, je vous invite à consulter les descriptions des épisodes parce que je glisse souvent des liens que les invités souhaitent mettre. Voilà, grand merci Noémie.
Merci à toi et puis bonne continuation.
Merci, toi aussi, à bientôt.
Au revoir.
Un grand merci à Noémie pour son partage d'expérience. Je vous glisse comme promis en description de cet épisode un maximum de liens et de ressources autour du métier d'orthophoniste. J'espère que la rentrée s'est bien déroulée pour vous tous et je vous dis à dans 2 semaines pour un nouvel épisode.